Vous écoutez, on lit pour vous.
Des Premières Nations disent avoir été exclues de la réforme du régime forestier, un texte d'Alexandre Shields paru le 25 avril 2025 dans Le Devoir. Des Premières Nations disent avoir été exclues de l'élaboration du projet de loi caquiste conçu pour augmenter la production forestière au Québec en modifiant notamment le régime d'exploitation de pans entiers du territoire ancestral des nations autochtones. Consulter nos Premières Nations dans le cadre de l'élaboration de lois n'est pas une entorse au processus parlementaire. La ministre Maïté Blanchette Vézina, responsable des ressources naturelles et des forêts, avait le pouvoir de le faire, mais elle a délibérément choisi de s'y soustraire, a soutenu vendredi le 25 avril 2025 le chef de la Première Nation des Inuits-Sipites, Martin Dufour. Dans une sortie conjointe, les conseils d'Essipites et de Mastoyach affirment que le gouvernement s'est servi des tables de réflexion sur l'avenir de la forêt comme prétexte pour ensuite imposer sournoisement une réforme majeure du régime forestier. Par voie de communiqué, il dénonce un geste de mauvaise foi et déshonorable de la part du Québec, qui n'a pas daigné consulter ni fournir de la rétroaction aux Premières Nations concernées à la suite du dépôt d'éléments de réflexion. La nation Atikamekw dénonce elle aussi les méthodes du gouvernement Legault, disant avoir été exclue de la conception d'un projet de loi qui aura pourtant des impacts sur ses droits ancestraux. La ministre connaissait très bien notre position par rapport au nouveau régime forestier. Nous lui avons offert notre participation à la rédaction du projet de loi qui affectera nos droits sur notre territoire ancestral. Nous lui avons indiqué que cela aiderait à conforter tout le monde. Elle a refusé, a soutenu Constant Awashish, le grand chef de la nation Atikamekw. Le nouveau régime forestier, censé être plus moderne, inquiète également plusieurs leaders d'autres Premières Nations, a-t-il ajouté. L'impression de faire un pas en arrière en redonnant plus de contrôle à l'industrie forestière est très présente. Même son de cloche du côté des Inuits. La protection du Nitassinan et le développement économique ne sont pas incompatibles. Nous craignons que le projet de loi numéro 97 sacrifie cet équilibre au profit de la rentabilité. On fait valoir vendredi les conseils d'Essipites et de Mastoyach. Ils ont cité en exemple le besoin d'assurer la pérennité des activités traditionnelles et culturelles de chasse, pêche, piégeage et cueillette, en plus de la nécessité de préserver la biodiversité, notamment les espèces menacées comme le caribou forestier, dont le déclin est directement lié à la destruction des forêts naturelles. Cette perspective d'un inexorable déclin du cervidé est toutefois inacceptable pour la nation Inuit, dont l'histoire est liée à cette espèce emblématique de la forêt boréale. Au cours des dernières années, des projets d'aires protégées en territoire Inuit ont toutefois été mis de côté afin de préserver le potentiel d'exploitation industrielle de la forêt. Le cabinet de la ministre des Ressources naturelles et des forêts Maïté Blanchette Vézina se veut pour sa part rassurant. Les communautés autochtones ont eu l'occasion de se faire entendre lors de plusieurs rencontres, 6 rencontres distinctes au total, a-t-on fait valoir par courriel. Un des objectifs du projet de loi est justement de venir reconnaître les droits des Premières Nations à l'intérieur de la loi. De plus, une table de haut niveau sera bientôt créée afin de permettre un dialogue constructif avec les Premières Nations afin d'établir des partenariats qui auront des retombées positives sur l'ensemble des utilisateurs du territoire, a également expliqué le cabinet de la ministre. C'était « Des Premières Nations disent avoir été exclues de la réforme du régime forestier », un texte d'Alexandre Shields paru le 25 avril 2025 dans Le Devoir.
La fois où Marie-Ève Perron s'est ouvert les yeux. un texte de Marie-Ève Perron, paru le 17 avril 2025 dans Elle Québec. Des personnalités féminines inspirantes se racontent sans tabou pour nous. Voici la fois où la comédienne et autrice Marie-Ève Perron a revu ses positions en matière de féminisme. C'est 2004. Je suis dans un local aux couleurs plates de l'UQAM, entouré d'une vingtaine de personnes. Ça jase fort. J'écoute, fébrile et excitée au possible, de pouvoir prendre part à un exercice démocratique. Nous sommes au stade des balbutiements du mouvement politique Option citoyenne, qui deviendra plus tard Québec solidaire. Mais ça, on ne le sait pas encore. Avant de me pointer à cette assemblée, je jase avec mes proches de cette patente à laquelle je compte participer. Mon entourage salue l'initiative de ce parti en devenir, soit de réaliser des consultations auprès de la population afin de construire sa plateforme électorale, mais il ressort dans les échanges que le mot « citoyenne » dans « option citoyenne » accroche l'oreille. D'autant plus que Françoise David, connue jusque-là principalement comme la figure de proue du mouvement féministe, se trouve à la tête du projet. « On envoie quoi comme message aux gars ?» me demande-t-on. « Eh oui !» Plutôt qu'un simple accord grammatical, certaines âmes y voient quelque chose qui s'apparente à du rejet. Comme si, en entendant le nom du projet, elles pensaient que c'était une option seulement pour les citoyennes. Si je sourcille aujourd'hui en relatant ce bout de l'histoire, c'est qu'à l'époque, je vous le donne en mille, j'acquiesce à ces doléances. Il ne me vient pas à l'esprit de soulever, avec un œil moqueur et juste ce qu'il faut d'ironie dans le ton, que même si, au jeu de l'accord grammatical, le masculin l'emporte toujours sur le féminin, la fille-femme que je suis s'implique dans sa société et a foi en son monde. On dit du militantisme féministe des années 1990-2000 qu'il avait du plomb dans l'aile. Que les jeunes femmes, dont je faisais partie, ne se reconnaissaient pas dans les élans revendicateurs des premières instances du mouvement et préféraient souvent s'en dissocier. C'est exactement le souvenir que j'en ai, à mon grand dam. Je faisais de l'impro, j'étais entourée de gars, j'étais en conflit avec ma mère, j'habitais chez mon père, j'étais fan de mon frère. Je porte fièrement ma salopette et mes Doc Martens. Je refusais de me maquiller et de me coiffer. Je disais des choses comme « c'est plus simple avec les gars ». Je voulais être « one of the boys ». Je faisais fi des remarques déplacées et inconfortables qu'il faisait en mettant ça sur le dos de ma satanée sensibilité. Quand je suis débarquée dans le petit local terne de l'UQAM, Françoise David, une militante féministe de la première garde, dont j'ignorais alors le nom, martelait que les propositions politiques qui circulaient manquaient cruellement de féminisme. C'est là que, portée par l'inébranlable force de mes convictions, j'y suis allée de mon grand partage d'expériences de vie. Au secours! En lui relatant ce que je viens de vous exposer. Chacun de mes mots, je le sentais, lui vrillait les tympans. Elle bouillait de l'intérieur. Ironiquement, cela confirmait à ma misogynie intériorisée tout ce qu'on projetait sur les féministes, qu'elles étaient hystériques, frustrées, revanchardes. Elle m'a laissé aller jusqu'au bout de mon plaidoyer puis a planté ses yeux dans les miens et m'a dit posément « Tes droits à toi sont des droits acquis. Et un droit acquis, c'est quelque chose qu'on peut te retirer à tout moment. » Ces mots ont résonné jusque dans ma colonne vertébrale. Je me suis mise à trembler. Il n'y avait pourtant rien que je ne savais pas déjà dans cette affirmation. Mais là, c'est comme si j'ouvrais les yeux pour la première fois. Des yeux qui ne se sont jamais refermés. Elle m'a serré dans ses bras avec bienveillance, puis s'est lancée dans une autre discussion. Je regrette tous les jours de ma vie de ne pas lui avoir dit « Merci, merci pour tout ». C'était la fois où Marie-Ève Perron s'est ouvert les yeux. Un texte de Marie-Ève Perron, paru le 17 avril 2025 dans Elle Québec.
Vouvoiement obligatoire, cellulaire interdit, plan pour renforcer le civisme, un texte de Vincent Larrain et Fanny Arcan, paru le 2 mai 2025, dans la presse. Le vouvoiement des adultes est appelé à devenir la norme dans les écoles au Québec en vertu du plan présenté jeudi par le ministre de l'Éducation du Québec, Bernard Drainville, pour renforcer le civisme et qui prévoit également l'interdiction complète des cellulaires. Monsieur, Madame, les élèves devront dorénavant s'adresser aux adultes du personnel scolaire en utilisant le Monsieur, Madame. Pour ce faire, les écoles privées et publiques devront modifier leur code de vie afin d'intégrer cette directive qui deviendra obligatoire au plus tard, en janvier 2026, a annoncé Bernard Drainville, jeudi, lors de la présentation de son plan pour renforcer le respect et le civisme dans les écoles du Québec. En cas de manquement aux règles, il doit y avoir des conséquences, a indiqué le ministre, en expliquant que ces conséquences pourraient aller d'un avertissement à une expulsion. La présentation de ce plan découle directement de la commission de la relève de la Coalition Avenir Québec, CRCAQ, dont la présidente, Aurélie Dieppe, une étudiante en enseignement préscolaire et primaire, appelait à ramener un climat sain dans les classes. Une maudite bonne idée, estimait François Legault à l'automne 2024. Le vouvoiement, pas toujours efficace. Il ne suffit pas d'imposer le vouvoiement pour instaurer un climat de respect, selon Roch Chouinard, professeur émérite en psychopédagogie à l'Université de Montréal. On peut être très respectueux en tutoyant quelqu'un et on peut être très impoli en les vouvoyant, explique-t-il. Selon l'expert, il devrait revenir aux enseignants de déterminer comment les élèves doivent s'adresser à eux. Là, je pense qu'on s'engage dans quelque chose qui va être extrêmement difficile à appliquer pour, en fin de compte, pas tellement de résultats positifs, ajoute-t-il. Des enseignants contrariés. Le président de la Fédération des syndicats de l'enseignement, FSECSQ, Richard Bergevin, raconte avoir reçu plusieurs appels de professeurs mécontents jeudi. Il trouve que ça n'a pas de bon sens que le ministre vienne dicter la façon dont ils vont entrer en relation avec leurs élèves, souligne-t-il. Un sondage effectué par le syndicat en octobre a par ailleurs illustré que moins de 6% des professeurs voyaient le vouvoiement comme un moyen efficace de contrer les incivilités. Au lieu d'arriver avec un règlement, on aimerait que M. Drainville transmette ses souhaits aux écoles et que chaque milieu détermine les meilleurs gestes à poser, ajoute M. Bergevin. Pas d'uniforme obligatoire. La CRCAQ, qui s'est félicitée de la présentation du plan de Québec, suggérait aussi de rendre obligatoire le port de l'uniforme au secondaire. S'il admet l'avoir évalué, Bernard Trinville ne se rend toutefois pas là, estimant qu'il faut laisser aux écoles le choix d'appliquer ou non cette mesure. On a autour de 2600 écoles au Québec. À un moment donné, il faut laisser de la latitude aux gens sur le terrain, a-t-il dit. Interdiction tous azimuts du cellulaire. Quant à l'interdiction des cellulaires, c'était écrit dans le ciel que ce serait annoncé sous peu, après que la commission parlementaire transpartisane sur le temps d'écran et les réseaux sociaux chez les jeunes eut soumis un rapport intérimaire le 22 avril recommandant cette seule mesure. Bernard Drainville avait déjà indiqué qu'il envisageait sérieusement cette mesure. Le cellulaire sera donc interdit non seulement en classe, mais aussi dans tout l'établissement, y compris sur le terrain de l'école. L'interdiction vise aussi les écouteurs et les autres appareils mobiles. Quant à la façon dont sera appliquée cette mesure, Bernard Drainville souhaite laisser de la latitude aux écoles. Des exceptions. Questionné sur le fait que certaines écoles exigent des élèves qu'ils utilisent parfois leurs propres appareils pour des activités pédagogiques, Bernard Drainville a souligné que certaines exceptions seront possibles. Ce sera possible lorsque des raisons pédagogiques l'exigent, pour les enseignants, de dire aux élèves « Récupérez votre cellulaire, allez faire l'exercice, puis ils le retournent », a-t-il expliqué. Le ministre maintient par ailleurs que le fruit était mûr pour l'interdiction du cellulaire compte tenu du vaste consensus au sein de la population québécoise. Si on avait attendu, les gens nous auraient reproché de taponner, et là, on ne taponne pas, a-t-il ajouté. Impliquer les parents. Le plan de Bernard Drainville prévoit d'impliquer les parents, et ce, dès la prochaine rentrée. Par exemple, en exigeant leur signature au bas du code de vie. Les écoles pourraient aussi exiger qu'ils participent à des rencontres si leur enfant fait des gestes qui contreviennent aux règles qui y sont prévues. Une équipe d'intervention. Parmi les mesures annoncées jeudi, se trouve également la mise sur pied d'une équipe d'intervention appelée à épauler les écoles aux prises avec des enjeux graves, par exemple de violence armée, a expliqué Bernard Drainville. Le but n'est pas de blâmer les écoles, ce n'est pas de stigmatiser les écoles, mais de les soutenir lorsque des événements graves et récurrents l'exigent, dit-il. Cette équipe d'intervention, dont le recrutement du personnel a déjà débuté, sera dotée d'un budget annuel de 2,3 millions qui permettra une quarantaine d'interventions par année à la grandeur de la province. Elle avait déjà fait l'objet d'une annonce en octobre 2023 lorsque Bernard Drainville avait présenté son plan de prévention de la violence et de l'intimidation dans les écoles. C'était « Vouvoiement obligatoire, cellulaire interdit », Plan pour renforcer le civisme, un texte de Vincent Larrain et Fanny Arcan, paru le 2 mai 2025, dans la presse.
Le Chili, pionnier de l'étiquetage nutritionnel. Un texte de Paulina Vera Puz, paru dans le numéro avril-juin 2025 du courrier de l'UNESCO. Confronté à un taux d'obésité parmi les plus élevés au monde, le Chili a été le premier pays à adopter une loi sur l'étiquetage des aliments à teneur élevée en composants nocifs pour la santé. riche en graisses saturées, riche en sodium, riche en sucre, riche en calories. Sur les produits alimentaires chiliens, une série d'étiquettes hexagonales d'une couleur noire dissuasive met en garde contre la présence éventuelle de composants considérés comme mauvais pour la santé. Le Chili est le premier pays à avoir imposé ce type d'étiquetage grâce à une législation pionnière qui a d'ores et déjà inspiré d'autres pays comme le Pérou, le Mexique, l'Argentine ou Israël. La loi interdit aussi toute publicité d'un produit arborant ses logos de mise en garde auprès des enfants de moins de 14 ans. Elle proscrit également certaines pratiques commerciales comme les cadeaux, concours, promotions, personnages, autocollants ou tout autre élément destiné aux enfants, ainsi que la vente ou la livraison gratuite d'aliments ainsi étiquetés dans les écoles. Des débuts difficiles. Le Chili affiche l'un des taux d'obésité et de surpoids les plus élevés au monde. 78 % des adultes sont concernés en 2022, contre 60 % dans le monde et 67 % sur le continent américain, selon les chiffres de l'Organisation mondiale de la santé, OMS. C'est dans ce contexte que le pays a lancé la loi 20.606 sur la composition nutritionnelle des aliments et leur publicité, un processus lancé au début des années 2000. Présentée en 2006, la proposition de loi initiale a suscité une levée de boucliers du secteur agroalimentaire. Un long processus de concertation réunissant tous les acteurs concernés a donc été engagé pour permettre à chacun de débattre. Les discussions se sont poursuivies pendant plusieurs années et ce n'est qu'en 2012 que le projet a été adopté. Inquiétude de l'industrie. Tout au long du processus, des discussions impliquant des experts internationaux, des groupes de travail, des universitaires, des groupes de réflexion ont été organisées dans le but d'aboutir à un consensus. À chacune de ces étapes, l'industrie agroalimentaire a insisté sur le caractère volontaire de l'étiquetage, la fixation de limites plus permissives pour les produits contenant des substances nocives et une plus grande discrétion des logos appliqués sur les emballages. La crainte d'un système qui n'existait alors nulle part ailleurs poussait les entreprises à brandir l'argument de la responsabilité individuelle dans les choix alimentaires. Mais le projet de loi reposait sur des bases techniques solides et était étayé par des études scientifiques. Finalement, la seule concession faite à l'industrie fut de lui accorder des délais plus longs grâce à une mise en œuvre de la loi en trois étapes. Aujourd'hui, la loi 20.606 oblige à apposer bien en évidence sur l'emballage un logo avertissant du dépassement des limites établies pour certains composants. Elle interdit également la publicité de ces produits auprès des enfants de moins de 14 ans, une mesure qui a provoqué la fin de la commercialisation de certains produits au Chili. Cibler les produits destinés aux plus jeunes est crucial dans la mesure où c'est dans l'enfance que se développe notamment la sensibilité au goût. L'exposition à des produits trop gras ou trop sucrés modifie le modèle de comportement de consommation à un âge précoce et rend difficile sa correction ultérieure, déclare la vice-ministre de la Santé chilienne, Andrea Albagli. Le cadre scolaire fait l'objet du troisième élément de cette législation, qui interdit la vente ou la livraison gratuite d'aliments étiquetés comme nocifs dans les écoles, une restriction qui doit également s'appliquer aux programmes d'alimentation scolaire distribués par l'État. Changement de paradigme. La loi sur l'étiquetage a permis un changement de paradigme, souligne Camilia Corvalan, chercheuse à l'Institut de nutrition et de technologie alimentaire, INTA, de Santiago, du Chili. Pour la première fois, il a été établi que la responsabilité n'incombe pas aux personnes, mais à leur environnement. Ce changement de discours ouvre la porte à une nouvelle approche extrêmement importante pour la politique nutritionnelle publique, ajoute-t-elle. Entre-temps, une partie des consommateurs se sont familiarisés avec ce logo et ont appris à s'en servir. Lorsque je fais mes courses, j'essaie de choisir le produit qui a le moins de mise en garde, précise Roberto, père d'un adolescent, à la sortie d'un supermarché du quartier du Nunoa à Santiago du Chili. Les étiquettes sont très utiles, renchérit Sylvia devant le même magasin. Il est important pour moi que les produits ne contiennent pas de graisse saturée, surtout quand il s'agit de ma fille. Plusieurs études laissent apparaître une modification de l'offre alimentaire chilienne. On note une diminution de l'ensemble des nutriments réglementés dans les aliments. L'ampleur de la transformation est importante, bien plus grande que ce qui a été obtenu par d'autres politiques, précise Camilla Corvalan. Dans les rayons des supermarchés, les produits sont globalement plus pauvres en sel, en sucre et en graisse. La loi est aujourd'hui largement respectée, ce qui représente une victoire pour la santé des consommateurs, mais elle ne couvre plus aujourd'hui les nouveaux additifs entrant dans la composition des aliments vendus en grande surface. On constate un ajout accru d'édulcorants non caloriques, ainsi que d'autres additifs chimiques qui ont pour fonction d'améliorer la saveur, la couleur, la stabilité ou la durabilité des aliments. L'utilisation de ces produits est généralement autorisée, mais la question est maintenant de savoir s'ils peuvent provoquer des troubles métaboliques à moyen ou à long terme, souligne Camilla Corvalan. C'est effectivement une préoccupation, reconnaît Andrea Albagli. C'est pourquoi une reformulation de la réglementation est en cours. En 2025, la loi sur l'étiquetage des aliments fêtera au Chili ses 9 années d'application. S'il n'y a à ce stade pas de preuves scientifiques quant à son impact sur la diminution du taux d'obésité, elle est déjà parvenue à ouvrir les yeux des consommateurs sur la nocivité de certains additifs présents dans les crèmes glacées et les soupes instantanées. C'est déjà beaucoup. C'était le Chili, pionnier de l'étiquetage nutritionnel, un texte de Paulina Verapouz, paru dans le numéro avril-juin 2025 du courrier de l'UNESCO.